quel sujet ?
Excusez-moi de vous déranger, mais on m'a parlé d'un appartement.
Il y aura du béton impeccable et du béton mal fichu. Ce qui reste, c'est ce qu'il y a d'architecture dedans. Et tout le problème est là-dedans. Qu'est-ce que vous avez voulu me dire ?
Le génie des lieux. Camille Jusa, Lionel Quentin.
Et donc peut-être dans 10 ans, on foutra ça en l'air, monsieur, comme par le passé. Ça, c'est une honte. Regardez-moi la tête que ça a. On dirait une trifilerie de pétrole.
Mais c'est gentil aussi.
Et les conditions, vous les connaissez ?
Ben, il y aura un supplément pour l'eau, la plomberie est toute neuve.
L'architecture, on la ressent. On la ressent physiquement.
La porte.
Épisode 8, La Défense, le monstre sur la colline.
Donc si je comprends bien, à chaque fois que je vais trouver une bonne femme, tu vas me la zigouiller !
La faute à qui ? Vous la laissez toute seule dans une tour vide ! Mettez-vous à ma place !
Ah !
C'est ce qu'on appelle la dynamique du meurtre.
À moins qu'il ait le fameux chromosome supplémentaire.
Mais pas du tout ! C'est le béton qui nous rend marteaux, les terrains vagues, cet univers déshumanisé qui nous entoure, la cité monstrueuse et sans âme.
Moi, j'ai envie de voir des arbres.
Il y a un premier moment, c'est juste quand le métro sort de terre. Et que tout d'un coup, on aperçoit ce surgissement vertical. Là, c'est un effet scénographique assez fort de découvrir la Défense comme ça. Et puis, quand on se retrouve au cœur de ce dispositif, au milieu de cette dalle, et qu'on est environné de ces tours, cette espèce d'unité qu'on ressentait quand on voit la Défense de loin, qui se donne dans l'unité de son hérissement presque géologique, quoi. Tout d'un coup, ça se dissout un peu, cette impression d'unité. Et c'est plutôt, au contraire, l'extrême diversité architecturale de ce quartier qui saute aux yeux et qui en fait une sorte de collection à ciel ouvert de l'architecture du second XXe siècle. Depuis un modernisme un peu brutaliste parfois un peu classicisant des débuts, jusqu'aux tours les plus iconiques des années 2000-2010, en passant par les prismes luisants du style international dominant dans les années 60 et 70, et puis une architecture dite plus humanisée, mais relativement indiscernable, qui s'est construite dans les années 80. Et puis, l'autre impression très forte que j'ai à chaque fois, c'est le bruit des pas sur la dalle, comme un troupeau de bisons comme ça, de ces travailleurs qui vont tous les matins rejoindre leur bureau et en piétinant comme ça de leurs talons bien affûtés, ce sol minéral et creux de la Défense qui résonne de manière très particulière, quoi.
Parce que ce qu'on peut dire en effet en premier de la Défense, c'est que c'est un prototype d'urbanisme sur dalle. C'est une dalle avant tout, la Défense.
C'est une dalle avant tout, aujourd'hui. En fait, la dalle est venue comme une solution à un problème assez majeur qui était de faire coexister un quartier avec un fonctionnement de quartier, avec des piétons, etc. Et puis, le fait de faire traverser à ce quartier des infrastructures de transport d'échelle régionale, métropolitaine, voire nationale.
Oui, parce qu'il y a une autoroute qui
passe. Il y a une autoroute qui passe. Il y a des trains, il y a le RER aussi. Et donc, les architectes et les urbanistes de la Défense ont progressivement adopté ce principe d'une séparation verticale de ces flux, qui était une manière d'intégrer dans les fonctionnements urbains ces grandes infrastructures.
On la voit de loin et parfois de manière tout à fait incongrue. Une masse bleutée, faite de grands prismes qui ressemblent à des cubes qu'un enfant se serait amusé à empiler. Rue de Rivoli, elle bouge complètement la perspective, ce qui avait fait hurler Giscard en son temps. Ailleurs, elle surgit au-dessus de la Seine, presque un peu ridicule dans sa démesure.
Elle est née au début des années 50, de la nécessité de désengorger le quartier d'affaires qui étouffait à Opéra, à cette époque où il suffisait que l'administration claque des doigts pour que l'on fasse surgir des villes entières de rien. Un monstre était créé, l'EHPAD, qui allait prendre tout l'aménagement en charge. Un gigantesque barnum qui allait faire faillite trois fois, se relever, se réinventer au gré des crises pétrolières, immobilières et financières. Un jour vide et désolé, le lendemain étincelante, la Défense érigeait à nouveau les tours les plus modernes. Au 40e étage de la plus haute tour, on scrute la ville un peu trop lointaine, on pense à ce désir des hommes de s'arracher du sol et de ses contingences, à leur rêve de petits garçons complexés qui voudraient toujours construire plus haut, plus grand. Devant ce paysage sauvage, accroché dans le ciel et au contact des éléments climatiques, on se demande par où commencer. Par un chantier, bien sûr, car c'est ça l'histoire de la Défense, un chantier perpétuel que l'on arpente aujourd'hui avec le critique d'architecture Pierre Chabard.
Explique-moi ce qui se passe ici.
Alors, ce qui se passe ici, c'est que vous aviez un bâtiment des années 80 qui va être complètement refait. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, il est déjà complètement curé, il est brut de béton. Et là, vous le voyez, vous commencez à l'entendre, les ouvriers s'activent. Et dans quelques temps, la façade va également être enlevée. Donc l'immeuble va être nu. On le voit de ce côté-là, il y a une partie de la façade, vous pourrez le voir, qui a déjà été ôtée. Et on va dire un nouvel immeuble va naître, puisque Élysée La Défense, qui est le nom actuel de l'immeuble, va devenir Window, livré fin 2017. Voilà.
Alors vous êtes...
Moi, je suis Bruno D'Acosta et je gère le projet chez Groupama Immobilier. Ce projet, on va dire que c'est vraiment une renaissance ou une deuxième vie pour le site. Et on s'est fait aider pour cela de KPF et SRA, deux architectes, pour justement, non pas juste rénover un bâtiment, mais vraiment imaginer et développer un nouveau produit. L'idée, vous le voyez sur les perses qui sont là, c'est vraiment de faire rentrer la lumière dans le bâtiment, d'en faire des plissures côté nord, côté parvis, comme un rideau de théâtre, voilà, qui s'ouvre sur le CNIT, sur la Grande Arche. Puisque vous le voyez, on est quand même dans une localisation idéale, on est vraiment dans le triptyque de la Défense. Là, vous avez Window, la Grande Arche, le CNIT. On a une façade de 150 mètres de long, une visibilité exceptionnelle. Donc on a vraiment souhaité capitaliser dessus.
On va faire rentrer tout le monde et on va faire mettre les casques nécessaires à l'intérieur.
Donc, et là, ce que je vous disais, vous appréciez les hauteurs sous plafond et surtout cette visibilité, cette lumière qui rentre. Alors actuellement, en plus, on a ces fenêtres des années 80 vertes qui étaient très typiques de l'époque, qui ne faisaient pas rentrer malheureusement la lumière. Cette armature blanche également d'époque, tout ça évidemment va être enlevé pour faire rentrer la lumière partout et on va avoir vraiment des bureaux en premier jour.
Donc là, on découvre face à nous la Grande Arche.
Qui est en pleine rénovation également. Il y a énormément à la fois de nouvelles tours, de nouveaux projets et de remise à niveau, rénovation de bâtiments existants. De bâtiments qui datent à peu près des années 80-90, donc ça valorise énormément le quartier. Et c'est vrai que c'est très apprécié par les utilisateurs. Cette vue ici, elle est également, je trouve, très symbolique parce qu'on regarde finalement vers le prolongement de la Défense. On a l'aréna qui sort de terre et tout le prolongement vers Nanterre où maintenant c'est vraiment le prolongement de la Défense.
Pierre Chabard, on est ressorti du chantier de Groupama, donc une grosse rénovation du bâtiment Élysée Défense qui donne sur le parvis. Qu'est-ce que ça vous inspire ?
La visite de ce bâtiment montre à quel point il n'y a rien de plus périssable que la nouveauté, il n'y a rien de plus daté que l'innovation finalement, il n'y a rien de plus vieux que le futur. Et ce qui m'a frappé également, c'est à quel point la péremption contre lequel luttent ces aménageurs immobiliers n'est pas tant une péremption technique
Mais ce qui se périme, c'est plutôt l'image du bâtiment. C'est ça qu'on cherche à renouveler. Et là, il y a tout un discours sur cette nouvelle façade, sur son plissement, sur l'argument principal de cette opération, même s'il est masqué par d'autres discours sur la mise aux normes, l'apport de lumière. Donc ce bâtiment était très à la mode dans les années 80. C'était le bâtiment de la Citibank. Donc, plus grande banque américaine. Donc, c'était un bâtiment qui était très médiatisé quand il a été inauguré au milieu des années 80, dessiné par l'agence Sobo et Julien, qui fait partie de ces agences d'architectes qui ont beaucoup construit à la Défense. Sobo et Julien étaient les architectes d'opération de la Tour Fiat au début des années 70. Ils sont ceux qui ont construit la Tour Elf. Et c'est toujours cette agence qui gère la rénovation de cette architecture. Donc on voit une évolution stylistique perpétuelle à la recherche toujours de l'avant-garde architecturale. Hein. Moi, je l'entends moins comme une avant-garde stylistique que comme une avant-garde au sens militaire du terme. Hein. Dans les armées napoléoniennes, il y avait l'avant-garde et l'arrière-garde. Donc l'avant-garde, c'est ceux qui sont dans la conquête, hein. la conquête de cette nouveauté permanente et la course contre sa propre péremption, en définitive. Mais ce que montre aussi cette opération de démolition-reconstruction, c'est à quel point le marché immobilier est relativement sourd et aveugle à une poétique de la Défense qui, moi, m'est assez chère. C'est sa poétique rétro-futuriste. C'est l'idée que cette architecture, dans sa valeur d'ancienneté, de désuétude, peut avoir un intérêt. Hein. C'est-à-dire que dans certains coins de la Défense, quand on déambule, tout d'un coup, on se retrouve en pleine année 50. C'est le passé du futur, en quelque sorte. C'est un retour dans la manière dont le passé a rêvé son futur. Et c'est une expérience assez fascinante, mais qui reste relativement peu opératoire sur le marché immobilier, qui cherche plutôt des produits qui correspondent aux standards du présent.
Comment ça marche ? On se demande comment ce modèle économique marche, en fait.
Alors oui, le mode de fonctionnement économique de ce quartier est largement déterminé aussi par le mode de fonctionnement de l'EHPAD lui-même, l'établissement public d'aménagement, qui au fond est principalement financé par la vente des droits à construire. Et donc quand il n'y a pas de vente de droits à construire, l'argent ne rentre plus dans les caisses de l'établissement public. Et donc le coût d'entretien de cet énorme vaisseau de béton et d'acier et de verre entraîne inexorablement l'EHPAD vers la faillite si l'EHPAD ne réussit pas régulièrement à vendre des droits à construire. Donc là, il y a une nécessité presque d'ordre économique à cette course contre le temps et à cette course vers la hauteur, cette course vers la densité, cette course vers la concentration de nouveaux objets. Alors, il y a encore des espaces où on peut encore construire des nouvelles tours. Et puis, quand on peut construire de nouvelles tours, on reconstruit des tours sur elles-mêmes, sur celles qui existent déjà, soit en les réhabillant, soit en les détruisant et les reconstruisant.
Et en fait, à chaque fois qu'on construit une tour, elle est censée incarner le sommet de la modernité et même le futur. Et elle est quasiment tout de suite désuète. Elle est très vite...
Elle est déjà datée avant même d'être inaugurée. Voilà, on est passé pas très loin de la tour Majunga tout à l'heure, qui est une des tours les plus récentes et qui paraît déjà usée dans son effet plastique, dans sa gesticulation un peu vaine, dans son expressionnisme un peu métaphorique, un peu... Donc on imagine que cette tour va avoir beaucoup de mal à résister à l'érosion du temps, mais pas seulement une érosion matérielle, mais une érosion esthétique, symbolique, culturelle.
Michel Jourdain, vous nous avez donné rendez-vous au pied de la tour EDF de Peille. Vous travaillez ici.
Tout à fait. La tour a été construite aux alentours de 2000-2001 et c'est un souvenir assez marquant puisque au moment de la construction, l'objectif et le défi c'était de construire un étage par jour. Donc on suivait l'évolution de la construction. Elle a été livrée en 2001. Elle était assez révolutionnaire dans sa conception et puis aussi parce qu'elle offrait une construction en open space. Voilà. Donc on suivait avec un intérêt à son évolution.
Vous étiez où avant ?
Avant, alors j'ai travaillé en différents endroits de la Défense. J'ai commencé à ce qui s'appelait jadis la Tour Totale, qui est aujourd'hui la Tour Alstom. Après, je suis passée derrière Place Voltaire, au pied des Quatre Temps. Et après, je suis arrivée à la Tour PB6.
Ça fait longtemps que vous travaillez à la Défense,
Ça fait quasiment 15 ans. Voilà.
Donc vous avez tout vu sortir de terre, là, des choses récentes.
Alors, j'ai vu sortir les immeubles qui ont été construits depuis ma présence, mais surtout, j'ai grandi pas très loin. Donc, j'ai vu, depuis Courbevoie, la Défense se construire. Et quand j'étais en fac à Nanterre, on a vu se construire la Grande Arche, les tours de la Société Générale. Donc, on a vu la Défense se remplir de tours et se moderniser.
Et quand on est étudiante en sciences éco, on se dit que c'est là qu'on va aller travailler.
On y pense. Parce que c'est quand même assez emblématique des sièges sociaux. C'est là où il y a la plus grande concentration d'entreprises, où c'est un peu l'équivalent de la City vue de Paris, avec les boîtes de cabinets de conseil, les banques. Quand on regarde, on voit aussi toute l'industrie énergétique. C'est assez drôle. Un jour, je me suis amusée à lever la tête et on voit que les principales tours ici, c'est Total, Areva, Technip. Donc quand on vient, après comme moi, de l'Institut français du pétrole, on sait qu'on aura à un moment donné à venir travailler à la Défense.
Il y a un très beau texte de Dan Graham dans les années 60 sur l'architecture de verre de ces grandes buildings. Et il explique que l'usage du verre dans ces grands buildings, dans ces gratte-ciels d'entreprise, est à l'image de l'opacité de ce qu'ils contiennent, en fait. Et que finalement, c'est une sorte de transparence complètement déceptive et qui est très bien illustrée, je trouve, ici, dans ce point de vue, où on voit plusieurs générations d'usages du verre, mais qui sont à chaque fois des usages du verre dans son opacité et qui finalement renvoient le paysage à lui-même et renvoient celui qui regarde ces objets à lui-même, quoi. Que ce soit effectivement la tour Fiat qui est pavée de granit avec un verre très sombre qui donne à l'ensemble l'aspect d'un monolithe luisant, noir, comme dans 2001, l'Odyssée de l'espace, à la tour Total qui joue de ces effets d'orgue comme ça et qui se revêt de cette enveloppe de verre miroir jusqu'à la façade du centre commercial, finalement, avec un verre qui est certes très transparent, mais qui évidemment est une sorte de vitrine qui donne directement sur le mur aveugle du centre commercial. Donc c'est à chaque fois trois versions de l'opacité de l'architecture de verre dans les quartiers d'affaires et dans les centres commerciaux d'ailleurs.
Marcher sur la dalle de la Défense, c'est en réalité marcher sur une succession de dalles, qui sont autant de projets immobiliers. Ici, le béton est granuleux, ailleurs, il est coloré. Et comme en plus la topographie originelle n'est pas plate, on passe son temps à monter, à descendre des escaliers, quand on ne contourne pas une cheminée de ventilation ou tout autre objet technique qui émerge sur la dalle. Bref, la Défense est beaucoup moins carrée qu'il n'y paraît. Parfois même, entre deux tours, la dalle disparaît complètement, cède la place à de petits espaces qu'on a remplis de verdure, mille et un recoins dans lesquels soudain on se perd.
Là, on se trouve justement au point où la dalle s'arrête, mais elle se continue par une petite passerelle en béton en forme de S comme ça, qui vient contourner l'angle aigu d'une tour de verre et qui est typique de ces petites infrastructures qu'on a dû construire pour accommoder finalement l'idée abstraite de cette dalle avec la réalité des flux de piétons hein, qui sont obligés à un moment donné de passer d'un quartier à un autre. Et il faut construire ces espèces d'objets un peu absurdes comme ça, d'une forme compliquée qui tranche avec la
la pureté des prismes architecturaux qui composent la Défense. Cet espace de la volonté, quand même, du projet, qui est la Défense, finalement, se heurte à ses limites prométhéennes, en quelque sorte. Et on pourrait dire que plus on a cherché à planifier, à hyper-planifier, à hyper-contrôler, à hyper-dessiner la Défense, et plus elle a généré en son sein du désordre, des espaces non contrôlés, des espaces labyrinthiques, des espaces qui échappent au projet, en fait. C'est une vraie démonstration des limites du projet total.
Vous êtes deux ?
On est avec les gens qui sont dehors.
Ah,
vous êtes la patronne ?
Oui. C'est une brasserie, ouais.
C'est une brasserie
je crois qu'elle a 30 ans. Moi, je suis arrivée il y a 6 ans.
Ouais. Qu'est-ce qui vous a fait choisir cet endroit-là ?
On est fermé samedi dimanche. On a les jours fériés. Et on a le soir, moi je peux partir plus tôt, on ferme vers 21h parce que le soir après les pots, enfin les bières, il n'y a pas grand monde, hein, c'est des bureaux. Hein, donc,
c'est pour ça que vous avez choisi ça.
Ouais. Ouais, parce qu'avant j'étais dans le 5e, je travaillais 7 jours sur 7, moi j'en pouvais plus. Ah, non.
Et alors là on est dans un endroit très particulier de la Défense, on n'est ni sur la dalle,
ouais,
ni en dessous.
Ouais. C'est que pour les habitués, les initiés, c'est presque un club privé ici. Comment vous nous avez trouvés ?
C'est qui la deuxième ?
On travaille essentiellement avec la tour Franklin qui est juste au-dessus. Et une tour, la tour Atlantique en face, qui est juste en face, c'est la tour anciennement HSBC. Mais bon.
Est-ce que vous pouvez nous décrire ce que vous voyez ? Enfin, on est où exactement là ? On est un peu suspendu entre au-dessus et en dessous là.
Ouais, c'est pour ça qu'on a du mal à trouver. On a inventé un jeu, vous savez, un truc de carte au trésor pour venir chercher, nous chercher ici.
La brasserie Le Knit, avec un K, s'il vous plaît, appartient plutôt au monde du dessous. Mais accrochée sur une longue coursive en béton à flanc de dalle, elle fait face à l'immense paysage de l'ouest parisien à droite et le paysage de la Défense à gauche. Alors on a monté quelques marches pour retrouver le niveau zéro de la dalle et se retrouver pile entre la dalle et la ville, entre le dessus et le dessous.
Nous sommes arrivés au bord de la dalle, hein. Donc comme on est plus haut que le sol de la ville, on surplombe. Paysage très ouvert. En même temps, un moment un peu vertigineux, parce qu'on se retrouve comme ça face à toute la stratification verticale de la dalle. On aperçoit, comme si elle était coupée, hein, tout le millefeuille de cette dalle, avec les successions de parking, de sous-sol, d'escaliers, de passerelles, et puis cette fantaisie presque de ces voies rapides et de leurs courbes souples comme ça, qui s'enchevêtrent les unes et qui se rejoignent les unes les autres, et qui nous parlent aussi d'un autre paysage, d'un autre univers qui n'est plus un paysage architectural, mais un paysage infrastructurel. Et donc là, ça nous parle aussi de la césure entre deux types de métiers, hein, qui se sont clairement dissociés à l'intérieur de l'EHPAD. Les architectes d'un côté, auxquels on a donné les objets en superstructure, comme ça, les monuments, les tours. Et puis, aux ingénieurs, on a donné le dessous de la dalle, tout le monde de la technique. Là, on est dans un paysage complètement artificialisé, avec clairement une césure, encore une fois, entre ce monde du dessous, qui est plutôt un monde mat, souterrain, en béton, et puis au-dessus, un monde plus étincelant, qui est le monde du vert, du reflet, de la lumière.
Pierre, on est dans les entrailles de la Défense. On a suivi un long couloir qui a été percé. Et là,
on a trouvé comme une cathédrale souterraine, on pourrait dire ça, faite de plusieurs volumes. On distingue des escaliers, c'est très très sombre, c'est éclairé avec quelques néons. On voit quelques graffeurs sont passés par ici, mais c'est évidemment complètement désert. Par terre, il y a une sorte de sueur, en tout cas de poussière qu'on soulève à chacun de nos pas. C'est inimaginable que cet endroit existe sous la dalle.
Et oui, et ça fait aussi toute la singularité et fascinante de la Défense, c'est que le hérissement étincelant et vertical des tours, qui est somme toute un phénomène architectural qu'on va trouver dans d'autres quartiers d'affaires dans le monde, trouve ici une sorte de pendant négatif dans cet enchevêtrement d'espaces cryptiques et obscurs, relativement labyrinthique et difficile à conceptualiser. Hein. On a du mal à savoir exactement où on se trouve ici. On a fait une trajectoire assez complexe. On a d'abord descendu, puis on est remonté pour redescendre. On a bifurqué plusieurs fois, à tel point que là, je ne saurais absolument pas dire où on se trouve. Et pourtant, on est dans des locaux très vastes, dont on peut imaginer qu'à un moment donné, ils ont été pensés avec l'intention d'y mettre peut-être des voitures, des parkings. On a l'impression d'être au fond, je sais pas, des grottes de Lascaux ou de. On a un peu le même sentiment de silence, d'obscurité et cette impression d'être au plus profond de quelque chose. Quoi.
C'est quoi ? C'est des vides laissés par la topographie, des vides laissés par des dalles successives ?
Je pense que c'est la succession des projets, la succession des chantiers, la succession des visions qui ont fini par déposer par strates successives dans le territoire des espaces imprévus, résiduels, qui sont vraiment le corollaire de toute cette succession d'intentions tout à fait déterminées, positives, et ça en est le résultat en négatif.
Et puis tous ces escaliers dans tous les sens, un peu comme dans un tableau de Wecher, on ne sait
dans
pas très bien.
Une gravure de Piranèse.
Voilà, on ne sait pas très bien où ça va, on ne sait pas très bien d'où ils viennent, mais ils sont un peu comme ces escaliers qu'on avait sur la dalle. Mmh. Hein, on continue de suivre la colline ici.
Oui, c'est tout à fait ça. Oui, on pense aux prisons de Piranèse et qui sont à la fois des espaces qui semblent les ruines de quelque chose et aussi le projet d'autre chose. Comme ça, on est pris entre deux temporalités qui s'enchevêtrent dans ces lieux incertains et transitoires comme ça, et qui ont une grande poésie.
C'était Le génie des lieux, épisode 8, La Défense, le monstre sur la colline. Avec Pierre Chabard, Bruno Dacosta et Estelle Jourdain.
Alors là, je vois vraiment pas qui ça peut être.
Probablement une erreur, c'est fou ce que les gens peuvent se paumer dans ces putains de tours.
Prise de son Jean-André Giannichini, mixage Stéphane Desmond, réalisation Lionel Quentin, une émission de Camille Jusa. Réécoutez et podcaster sans limite de durée cet épisode et tous les épisodes du Génie des lieux sur le site de France Culture à la page de l'émission où vous trouverez bien entendu quelques photos. Merci à Amaury Chardot pour son oreille, Anne Delavaux pour ses précieuses archives IMA et Patricia Drijard pour son soutien logistique. Enfin, 500 000 merci à mon sparring partner Lionel Quentin, compagnon infatigable de ses promenades architecturales. Bonne rentrée à tous.